cette heure-là, les disciples vinrent à Jésus, disant, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Jésus, ayant appelé auprès de lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et dit, « En vérité, je vous dis, si vous ne vous convertissez, ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque donc s'abaissera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux, et quiconque reçoit un seul petit enfant, tel que celui-ci, en mon nom, me reçoit. Et quiconque est une occasion de chute pour un de ces petits qui croit en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui ait pendu au cou une meule d'âne et qu'il ait été noyé dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute. Car il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute, mais malheur à cet homme par qui l'occasion de chute arrive. Et si ta main ou ton pied pour toi est une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou estropié que d'avoir deux mains ou deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu. Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Que vous en semble ? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se soit égarée, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité je vous dis qu'il a plus de joie de celle-là que des 99 qui ne se sont pas égarées. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'un seul de ces petits périsse. Dans le même évangile, au chapitre 21. Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 12. Et Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et des aveugles et des boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Et les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les merveilles qu'il faisait, et les enfants criant dans le temple, et disant « Hosanna au fils de David », en furent indignés, et lui dirent « Entends-tu ce que ceux-ci disent ?» Mais Jésus leur dit, sans doute, n'avez-vous jamais lu par la bouche des petits-enfants et de ceux qui têtent, tu as établi ta louange ? Et les ayant laissés, il sortit de la ville et s'en alla à Béthanie et il y passa la nuit. Et encore dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 17. Et les 70 s'en revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont assujettis en ton nom. Et il leur dit, je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. En cette même heure, Jésus se réjouit dans l'esprit et dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Encore un autre passage dans l'évangile de Marc et au chapitre 10, verset 13. Et on lui apporta de petits-enfants afin qu'il les touchât. Et les disciples reprenaient ceux qui les apportaient. Et Jésus, voyant cela, en fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. » En vérité, je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Et les ayant pris entre ses bras, il posa les mains sur eux et les bénit. C'est clair, ce qui est devant nous, c'est le sujet des petits-enfants, avec tout ce que ça a d'émouvant. Quand on voit dans les locaux de réunion, ici et là sur les bancs, de ces petits, ils chantent. Peut-être ne comprennent-ils pas tout ce qu'ils chantent, mais cela fait penser à ce verset du psaume 8 cité dans Matthieu 21, par la bouche des petits-enfants et de ceux qui têtent, tu as établi ta louange. Et le Seigneur Jésus est descendu du ciel. Lui qui était en forme de Dieu s'est anéanti et il a été fait à la ressemblance des hommes. Et il était là, devant les bergers. Ce petit enfant, emmailloté, est placé dans une crèche. C'est comme ça qu'il est apparu au milieu des hommes. Non pas avec la puissance et la richesse d'un roi, d'un puissant, mais comme un petit enfant dans sa faiblesse, dans son incapacité, dans sa dépendance, dans sa soumission, objet des soins et de l'amour de ses parents, de sa mère. Rien qu'en disant cela, je pense que nous avons donné les caractères principaux des petits-enfants. Dépendants, parce que nous pouvons se suffire à eux-mêmes, objet des soins et de l'amour de ses parents, et étant là dans la faiblesse. Le Seigneur Jésus a pris cette place et le passage auquel nous faisons allusion de chapitre 2 de Luc nous dit que la gloire du Seigneur, avec un astérisque, c'est-à-dire la gloire de Jéhovah, de l'Éternel, était là, avec le cœur de l'armée céleste et inondé cette scène, marqué par l'humilité des bergers, mais aussi l'abaissement du Fils de Dieu dans ce petit enfant. Et dans le millénium, qu'est-ce que nous dit le chapitre 11 du livre d'Ésaïe à propos de ces animaux, à propos de cette scène de paix, quand toute violence et toute agressivité aura disparu? Un petit enfant les conduira. Eh bien, chers frères et sœurs, chers amis, c'est le même qui est au milieu de nous. Il est la tête, le chef donné sur toute chose à l'assemblée qui est son corps, par celui qui, selon l'opération de la puissance de sa force, l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite. Oui. Il est le chef, la tête de l'Assemblée. Mais nous l'avons vu dans Matthieu 18, c'est clair. Il est comme ce petit enfant que lui place au milieu de ses disciples, au milieu de nous. Un petit enfant les conduira. Mais c'est une leçon d'humilité qui devrait nous toucher, nous remuer dans son application pratique. Chaque fois que nous nous réunissons ensemble, et nous savons bien que le Seigneur est là, avec toute sa puissance, avec tout ce qui lui revient, c'est vrai, mais aussi comme un petit enfant. Alors, devant lui, dans sa présence, qui oserait, chers amis, se redresser d'un millimètre au-dessus de lui? Et j'emploie tout de suite une expression familière, mais qui va bien nous faire comprendre l'essentiel du sujet. Qui oserait, parmi nous, frères et sœurs, se prendre assez au sérieux en se disant, moi je suis un adulte, moi je suis ceci, moi je suis cela, alors que là, moralement, en image, le Seigneur est comme un petit enfant, ayant l'autorité et les droits, tout ce qui lui revient, comme tête glorifiée dans le ciel, de son assemblée, corps de Christ sur la terre. Mais les deux choses vont ensemble. Et dans la scène d'humilité de Luc 2, il y a en même temps la gloire du Seigneur. Il y a en même temps le cœur de l'armée céleste. Il y a en même temps Marie qui garde toutes ces choses par-devers elle. Il y a la louange, l'hommage des bergers. Les deux choses ne sont pas contradictoires, mais elles nous montrent bien devant qui nous nous trouvons. Et ce que nous avons à en faire, pratiquement, et l'attitude que nous avons à prendre, les uns et les autres, pour ne pas nous prendre au sérieux. Non. C'est peut-être une expression impropre, c'est peut-être une expression familière, je n'en ai pas trouvé d'autre. Mais c'est une leçon qui se dégage de la considération de ces quelques passages que nous avons lus, et qui nous parle des petits-enfants. Et d'abord, du cas que le Seigneur fait lui-même de ses petits-enfants, soit au début du chapitre 18 de Matthieu, soit dans le passage de Marc que nous avons lu à la fin. A remarqué que dans ce passage de Marc, il prend ce petit-enfant entre ses bras. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus touchant que cela? Le Seigneur Jésus, celui dont nous parle le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, celui par la puissance duquel toutes choses ont été amenées à l'existence, et toutes choses subsistent, et celui qui s'est anéanti, celui qui est devenu comme un homme, comme un petit enfant, il prend un petit enfant entre ses bras. N'est-ce pas que nous aimons cette scène? Et nous l'avons souvent lue à nos enfants en leur disant, tu vois, comment le Seigneur Jésus t'aime. C'est le même qui t'aime encore. Et c'est le début de la connaissance que l'on peut avoir du Seigneur. Une connaissance qui ne passe pas par le cerveau, mais qui passe par le cœur. Entre l'homme et Dieu, il y a la conscience, mais il y aura toujours. Qu'il soit incrédule avant sa conversion, ou qu'il soit un croyant, un racheté du Seigneur, il y aura toujours le cœur et l'amour. C'est une affaire de cœur et d'amour. Ce n'est pas une question de circonvolution cérébrale. Ce n'est pas une question intellectuelle. Cette connaissance du Seigneur Jésus, la jouissance de son cœur et de son amour, passe par le nôtre. On ne pourra jamais remplacer le cœur et l'amour des rachetés pour connaître le Seigneur et pour jouir de son amour et de son cœur à lui. C'est le moment de dire ce que nous chantons dans un cantique. Mon Sauveur vous aime. Ou dans un autre, si vous saviez quel sauveur je possède. Il est l'ami le plus tendre de tous. Il prie, il intercède. Est-ce que tout le monde ici connaît le Seigneur Jésus comme son sauveur? Non pas d'une manière systématique, celui dont on parle, celui dont on voit des images ici et là, le crucifié, mais pour soi-même, en passant justement par le cœur. Est-ce que chacun peut dire qu'il a vu en lui, en Christ, dans son œuvre accomplie à la croix, celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu? Non seulement il prend un petit enfant entre ses bras, Évangile de Marc chapitre 10, mais encore, il nous dit quelque chose qui nous touche à chacun. Laissez venir à moi ces petits-enfants et ne les en empêchez pas. Mais on va dire, ceux qui sont des croyants, les rachetés du Seigneur, et des pères et des mères de petits-enfants, on va dire, mais on n'empêche pas les petits-enfants d'aller à Jésus. Croyez-vous? Croyez-vous que dans les familles, il y a des querelles, où il y a de l'insoumission, où il y a des disputes, où ça va mal? Croyez-vous que ces caractères de l'homme dans son état naturel sont propres à amener les enfants à Jésus? Est-ce qu'en faisant ainsi, est-ce qu'en vivant ainsi, nous ne sommes pas de ceux qui empêchent nos petits-enfants d'aller à Jésus, alors que s'il brille en nous, par grâce, les caractères du Seigneur, nous serons des moyens d'attrait pour ces jeunes cœurs, qui verront en nous quelque chose de Christ, et qui seront attirés, et qui viendront à Jésus. Et si nous parlons des familles, il en est de même dans l'assemblée, dans les assemblées, quand des petits enfants, ceux que le Seigneur aime à prendre entre ses bras, voient de plus ou moins loin, entendent de plus ou moins près des disputes, des querelles, des jalousies, des intrigues, voire deuxième épître aux Corinthiens. Quand ils se rendent compte de cela, sont-ils attirés par Jésus, par ce lieu moral dont on dit qu'il est caractérisé par la présence du Seigneur? Sont-ils attirés ou sont-ils repoussés? Notre responsabilité est très grande, frères et sœurs. Oh, nous le savons bien, je ne vous apprends rien. Mais nous revenons là-dessus parce que nous avons besoin de considérer ces choses. Quand nous sommes réunis en assemblée, nous désirons jouir de la présence du Seigneur, du secours du Saint-Esprit. Nous désirons pouvoir lire la parole et que nous soyons éclairés pour pouvoir comprendre ce qu'elle a à nous dire. Mais est-ce que nous pensons assez à ces jeunes auditeurs, à ces jeunes spectateurs, ceux qui sont très conscients qu'il y a un grand décalage entre ce que nous professons et ce que nous vivons dans les réunions d'assemblée? Croyez-vous pas qu'ils se rendent tout à fait compte, dans leur désir de droiture et de justice, que nous ne sommes pas ce que nous déclarons? Et ainsi, est-ce que nous ne sommes pas de ceux qui empêchent les petits-enfants d'aller à Jésus? Il faudrait quand même revenir un peu à soi-même et se dire, chacun pour soi, pas le dire pour l'autre, pas le dire pour la sœur qui est là ou pour le frère qui est là, mais pour soi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai rendu comme témoignage attractif à l'égard de cette jeunesse, à l'égard de ces petits-enfants? Ce n'est même pas des adolescents qui sont là devant nous, mais c'est des petits-enfants, des tout-petits. On croit qu'ils ne sentent rien, mais ils sentent beaucoup de choses. Quand on a eu des enfants, on a pu se rendre compte qu'à l'âge de 5 ou 6 mois, ils se rendent compte si le père est présent ou si le père n'est pas là, dans la maison. Ils se rendent compte de choses d'une manière peut-être inexprimable, ils ne peuvent pas parler, mais ils perçoivent. Ils perçoivent l'atmosphère désolante qui règne dans une maison. Ils perçoivent aussi l'atmosphère de paix, l'atmosphère de joie chrétienne, l'atmosphère qui devrait caractériser toutes nos maisons, qui n'a pas toujours caractérisé la mienne, c'est vrai. Mais c'est le moment pour chacun de revenir en arrière et de se dire, mais enfin, où est-ce qu'on en est? Chers amis, dans les assemblées, où est-ce qu'on en est? Vis-à-vis de la gloire du Seigneur, vis-à-vis de Dieu, mais tout simplement, vis-à-vis de ces petits qui sont là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut relire ce que nous avons lu dans le chapitre 18 de Matthieu. Est-ce qu'on leur répand en scandale? Et que dit le Seigneur? Malheur à cet homme par qui l'occasion de chute arrive. Ou encore, prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, verset 10. Il y a quelquefois dans nos attitudes d'adultes un certain mépris. Oh, qu'importe. Ce n'est qu'un petit enfant, oui, mais avec toute sa sensibilité. Il suffit de voir ce que nous avons eu l'occasion de voir récemment dans la famille, puisqu'on a un petit enfant qui est né le 15 décembre. Il suffit de voir un petit enfant tété. Eh bien, déjà, à moins d'un mois, il exprime l'amour qu'il a pour sa mère. À sa manière, il exprime. Mais le geste est si doux, qui caresse le sein maternel. Et la mère, sans un mot, lui dit aussi son amour. C'est ça le petit enfant. Et c'est ça la relation qui existe entre lui et Dieu. Et le Père. Et c'est peut-être pour cela, l'expression est difficile à expliquer certainement, du moins pour moi, qu'il est dit que leurs anges voient la face de mon Père qui est dans les cieux. Au verset 10, les anges, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que ça ne serait pas en relation avec cette perception inconsciente et inexprimable de l'amour du Père par un de ses petits-enfants? Ils ont une place élevée, c'est certain, dans le cœur du Seigneur, mais aussi pour le Père, pour notre Père. Prenons garde à ces petits. C'est comme de la porcelaine fragile, la porcelaine de Chine, délicate, merveilleusement ouvragée, le psaume 139 nous en rend compte, tissée comme une broderie, et nous serions brutaux à leur égard, nous ne les ménagerions pas dans les scènes que nous leur donnons de division entre frères, d'incompréhension, mais plus encore de manifestation d'orgueil. Parce que chacun se prend au sérieux. Au lieu de se considérer justement comme un petit enfant, c'est la leçon que nous avons là. Et cela dès le début. Luc chapitre 10. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Voilà le cérébral. Voilà les circonvolutions cérébrales. Voilà l'intelligence. On n'y entre pas. Ainsi. Mais tu les as révélés à de petits enfants. Quand Hérode, à la fin de l'évangile de Luc, avide de rencontrer le Seigneur pour l'interroger, pour savoir quelque chose qui satisfasse sa curiosité, lui pose beaucoup de questions, il dit, Jésus ne lui répondit rien. Ainsi est le livre de vie pour tout homme qui cherche à satisfaire sa curiosité, qui approche ce livre avec ses raisonnements, avec ses argumentations personnelles. Et prenons garde d'en faire autant. Quand nous avons ce livre-là, et on le demandait à notre frère Darby, dans quelle disposition vous mettez-vous pour lire et méditer la parole? Et il répondait justement, lui qui avait quand même de grandes capacités de toutes sortes, « Eh bien, je suis là comme un petit enfant. » Et nous oublions souvent cette attitude de dépendance, de petitesse, d'infirmité. On se redresse de toute sa hauteur et on est comme un Hérode qui interroge Jésus, mais qui n'en tire rien. C'est une grande leçon pour nous, qui nous satisfaisons beaucoup de bibliothèques bien gardies, de livres latins, grecs, anglais, français aussi. Et qui pensons qu'à cause de cela, eh bien, nous allons être de grands savants, de grands docteurs. Mais nous avons oublié cette condition de petit enfant. Je puis vous dire que, si je dis cela, c'est à la suite, pas bon de parler de soi, mais quand même c'est à la suite d'expériences personnelles, d'exercices personnels. Petit enfant. Et justement, disons cela pour aérer un peu le discours, il se trouvait qu'un dimanche de décembre, Il y avait dans l'assemblée où nous trouvons d'habitude à Belloc, il y avait quatre de mes petits-enfants. Et l'un d'entre eux pour lequel c'était la première fois qu'il venait à la Réunion. Et c'était quelque chose qui était émouvant, qui serrait le cœur, de voir ces petits, dont l'aîné a peut-être 10 ans, qui étaient là, présents. Et cela est une leçon d'humilité. Ça me ramène à notre propre dimension. Pas un millimètre au-dessus, je vous en prie. Pas un millimètre au-dessus. Un petit enfant. Les disciples étaient très fiers de ce qu'ils avaient fait. Ils avaient chassé des démons en ton nom. Bien sûr, dans le chapitre précédent, ils n'avaient pas réussi parce qu'ils avaient oublié d'invoquer ce nom pour chasser l'esprit démoniaque chez cet enfant. Et ils ont reçu une belle leçon ensuite avec cet homme qui ne les suivait pas et qui, lui, pouvait chasser des démons. Alors ils ont appris la leçon, et les 70 peuvent dire ce que nous avons lu, ils se réjouissaient de ce qu'ils chassaient les démons au nom de Jésus. Les chassons en ton nom. Verset 17 de Luc 10. Alors, le Seigneur Jésus les comprend. Il ne va pas les admonester. Non, il leur dit, je voyais Satan du ciel comme un éclair. À distance, dans son cœur, il voyait ce que ses disciples faisaient, ce qu'il avait envoyé, et il leur dit, attention, ne vous réjouissez pas. Il leur fait des promesses au verset 19, mais il leur dit au verset 20, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. À quel titre nos noms sont-ils écrits, enregistrés quelque part? Eh bien, d'abord au titre de notre naissance. On va à la mairie, on déclare la naissance d'un enfant, tel jour à telle heure, avec tel prénom et tel patronyme. C'est bien inscrit. Et puis, à un autre titre, quand nous résidons dans telle localité, nous sommes enregistrés. Sur les listes électorales, par exemple, ou sur d'autres registres, et nous apportons la preuve de notre domiciliation avec telle et telle pièce de l'EDF ou du téléphone, peu importe. Nous connaissons ces choses. Mais nous les rappelons pour montrer ce côté concret auquel fait allusion le Seigneur. Vos noms sont écrits. Oui, mais où? Dans les cieux. C'est le lieu de notre naissance, de notre nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire en haut, d'en haut. Et alors, on écrit notre nom. Un tel a reçu le Seigneur. Jean chapitre 1. Alors il lui est donné le droit d'être appelé. Il lui est donné le droit d'être enfant de Dieu. Qu'elles sont nées non pas de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Voilà notre nouvelle naissance, par l'eau et par l'esprit, Jean chapitre 3. Et puis, dans notre vie de croyant, notre bourgeoisie, notre nationalité, épître aux Philippiens chapitre 3, elle est céleste. Et nous sommes inscrits là, dans les registres célestes. C'est ça qui doit nous faire bondir de joie, ou qui devrait nous faire bondir de joie. Or, bien souvent, nous sommes complètement atones. On a été heureux d'être convertis, d'être sauvés, et puis cette joie s'estompe. Et nous ne savons plus, comme nous lisons dans Ésaïe, chapitre 40, sauf erreur, non, 12, voir avec joie aux fontaines du salut. C'est quelque chose, une démarche que nous devrions refaire de temps en temps. Je suis sauvé. Revenir tout simplement au cantique d'appel. Nous les chantons peu souvent, peut-être. peut-être pas assez souvent, mais il déborde de joie. Et c'est une joie rafraîchissante dont nous avons besoin dans le chemin. Savoir que nous avons un sauveur. Mon sauveur vous aime. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. S'en réjouir comme un petit enfant. Non pas comme un homme sérieux qui voit tous les mécanismes de la conversion. La parole nous les enseigne, il est bon de les savoir, c'est sûr. Mais tout simplement le fait d'être sauvé, d'être passé de la mort à la vie, d'avoir été délivré du pouvoir des ténèbres et d'être amené à la merveilleuse lumière, rendant grâce ainsi au Père qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quelle joie! De quelle joie nous privons, parce que nous n'y pensons plus. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. On ne pense plus aux privilèges qui sont les nôtres, qui sont inhérents à cette condition de sauver. Et on va, triste, préoccupé de beaucoup de soucis, occupé de ce que fait l'un, de ce que fait l'autre, toujours prêt à juger. On est tellement supérieur à son frère. Au lieu d'être devant lui comme un petit enfant, dans l'humilité, restant à la place qui est la nôtre, devant Dieu. Alors, le Seigneur continue, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. » Mais est-ce qu'on pense à ce que ça représentait pour le Seigneur de se réjouir sur la terre, en esprit, en pensant à cette chose magnifique de la révélation que fait le Père par son esprit, par le Seigneur lui-même, par la parole, de ce qui concerne son propos, de ce qui concerne ce qu'il nous révèle aux uns et aux autres. Mais quand on lit l'Épître aux Éphésiens, le premier chapitre, quel sentiment avons-nous? Quelquefois, un peu de lassitude, on entre peu dans ce qu'est le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, et on comprend mal la prière d'Éphésiens 3, la prière de l'apôtre. Fais-toi rendu capable de comprendre avec tous les saints la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà des choses qui sont révélées à des petits enfants. C'est pas révélé à des sages et à des intelligents. Les sages et les intelligents ne peuvent pas entrer dans la dimension de cette prière d'Éphésiens 3, ni dans bien d'autres, parce que avec leur cerveau, cela leur est fermé. Mais avec le cœur et avec l'amour, alors là, nous comprenons sans pouvoir expliquer. Et nous adorons. Nous adorons. Et nous avons à adorer comme de petits enfants. Voilà ce passage de Matthieu 21 que nous avons rappelé. Par la bouche de ceux qui t'aident, par la bouche des petits-enfants et de ceux qui t'aident, tu as fondé, tu as établi ta louange. Réunion de culte. Réunion d'adoration. Comment venons-nous là? Avec la tête pleine? Disposés à faire de beaux discours? À encombrer la scène avec de beaux discours ou avec le cœur plein. De l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est vrai que nous venons comme Éphraïm en Osée 14 avec des paroles. Nous venons avec des paroles. Et il y a lieu d'exprimer les actions de grâce et les bénédictions et ainsi de présenter l'adoration. Il peut y avoir des moments de silence et respectons les silences de l'assemblée, chargée du parfum, de l'amour des saints, de l'amour des frères, de l'amour des sœurs, pour Christ. Avons-nous pensé, chers frères, que les sœurs qui n'ouvrent pas la bouche peuvent plus intensément exprimer leur amour, leur adoration et leur louange pendant ces moments de silence qui sont certainement très précieux au cœur du Père et au cœur du Seigneur? Gardons-nous d'interrompre précipitamment un moment de silence. Silence non pas à cause du vide des vases, mais silence parce que les mots ne viennent pas pour exprimer ce dont nous sommes remplis à déborder. Évidemment, il faut un exercice et une intelligence spirituelle pour discerner la nature du silence. Mais il y a de très beaux silences dans les cultes. Il nous convient de les respecter. Peut-être appartiennent-ils ces moments de silence d'une manière plus privilégiée aux sœurs, mais aussi à tous les saints assemblés, à l'assemblée tout entière. Ils appartiennent au Seigneur. Le parfum s'élève. Alors, venons-nous pour adorer avec une tête pleine, avec des grands discours, dont Dieu n'a que faire. Comprenons-nous enfin que plus la prière est longue, et bien souvent plus faible est la louange. Quand vous entendez un jeune frère prononcer 4 phrases, n'avez-vous jamais été rafraîchi, chers frères et sœurs, par ce bref discours? Et quand nous, frères plus âgés, nous faisons des longs discours, des longues prières de 10, 12, 15 minutes, croyez-vous pas que ça étouffe le jeune frère, qui est lui aussi la voix de l'assemblée? Croyez-vous pas que ça l'étouffe et que ça le gêne pour exprimer ce qu'il a à exprimer? C'est être comme des petits enfants devant le Père que de se respecter l'un l'autre dans ces choses-là et de venir à l'adoration avec des cœurs remplis, mais aussi avec le désir que l'expression soit la plus chaleureuse possible et la plus spirituelle, et qu'ainsi nous faisions monter vers Dieu notre Père la louange qui lui revient dans un esprit de dépendance, petit enfant, de soumission à l'esprit, petit enfant, d'amour, petit enfant. Nous avons rappelé ces caractères en commençant, parce que ce sont des caractères principaux de petits enfants. Et alors, parce que nous nous sentons des grands garçons, alors nous abandonnons ces caractères. Nous nous prenons au sérieux. Non, chers frères et sœurs, nous n'avons pas à nous prendre au sérieux. D'ailleurs, nous faisons assez d'expériences humiliantes pour ne plus nous prendre de la sorte, comme de petits enfants. Nous avons parlé de l'adoration et parlons de la scène. Quand nous approchons de la table, pensez-vous que c'est le lieu de faire de grands discours, alors que le Seigneur nous dit de faire? Faites ceci. Autour de la table, nous mangeons, nous buvons, nous faisons un geste, nous prenons un repas. Est-ce le moment de faire de longs discours, d'exprimer ce qu'il y a dans notre tête, de repasser devant Dieu tout le mécanisme de l'œuvre expiatoire de Christ, les différents côtés, les différents aspects, l'holocauste, le sacrifice pour le péché, le parfum de bonne odeur? Croyez-vous? Dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3, le prophète parle de ce que le peuple d'Israël, dans un si mauvais état, fatiguait l'Éternel. Prenons garde de ne pas fatiguer le Seigneur. Oh, sa patience et son support sont inépuisables. mais aussi de ne pas fatiguer les petits-enfants, de ne pas fatiguer les personnes âgées, ceux qui sont mal assis sur des bancs quelquefois inconfortables. Pensons à cela en toute simplicité. C'est une question de simplicité. Les petits-enfants sont simples. Ils ne vont pas chercher midi à 14 heures. Ils sont simples devant leurs parents. Ils sont libres, ils sont joyeux, ils crient. Matthieu 21. Hosanna au fils de David. Ils sont spontanés. Est-ce que ça nous manque? Oui, ça nous manque. La spontanéité spirituelle, la fraîcheur. Se laisser aller. Parlions de silence tout à l'heure, de silence de valeur, mais il y a des silences coupables, parce qu'il y a peut-être quelques jeunes frères qui ne veulent pas se laisser aller, qui se retient par crainte, par timidité. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mes chers frères, celui qui parle trop longtemps est aussi coupable que celui qui se tait. On a raconté, peut-être certains d'entre nous l'ont entendu, cette histoire, que dans un culte, je crois que c'était en Belgique, mais peu importe, il y avait un très long silence, justement. Et rien ne se faisait, pas de cantique, pas de lecture de parole, pas de prière, et un frère, qui avait l'autorité morale pour le faire, qui a dit « Où est le désobéissant ?» Et c'était certain, à ses yeux et selon son intelligence spirituelle, qu'il y avait un frère dans l'assemblée qui se taisait volontairement, qui se retenait, au lieu de se laisser aller à cette spontanéité des petits-enfants qui crient « Hosanna au fils de David !» Alors il ne faut pas se laisser aller non plus à des actions intempestives, sous prétexte que nous avons entendu cela ce soir. Il y a un frère qui a lu Matthieu 21 et que des petits-enfants criaient. Non, gardons la réserve, la sagesse qui convient et le respect dû à la présence du Seigneur. Et il est là, ce petit-enfant, le chef de l'assemblée. Mais il est là et nous avons à prendre garde à ne pas prendre sa place. Parce qu'à force de se prendre au sérieux, à se prendre pour un adulte, on arriverait à écarter du coude le Seigneur, en se disant « c'est moi le Seigneur, moi je suis l'adolescent, moi je suis le chef ». On ne se le dit pas, mais quelquefois tout se passe comme si. Et c'est fâcheux, et tout le monde en éprouve une perte. Tout le monde le sent. Et puis même ces petits qui ont les oreilles ouvertes, les yeux ouverts, pour bien se rendre compte de l'attitude de l'un et de l'autre. Ils nous jugent, nos enfants. Peut-être quelquefois dépassent-ils la mesure, mais bien souvent c'est une bonne chose dont nous, parents et grands-parents, nous avons grand besoin. Être confrontés avec ce regard d'un enfant qui est désireux de droiture, désireux de justice, être confrontés à ses questions, à ses demandes d'explication, et reconnaître devant lui qu'on a manqué. Voilà donc quelques passages qui nous disent ce que sont les petits-enfants pour le cœur du Seigneur. Que nous sentions les uns et les autres, et moi-même le premier, concerné par ce que nous trouvons dans ces images, dans ces récits, et que cela nous amène à une vraie humilité. Non pas une humilité qu'on recherche, d'une manière forcenée. Parce que cette humilité recherchée de façon forcenée nous amène à nous regarder nous-mêmes. Et finalement, on en arrive à en être fier d'être humble. Or, nous avons bien connu les uns et les autres, surtout pour ceux qui sont un peu plus âgés, des personnes, des frères, des sœurs, qui étaient humbles.